Alors, bonjour et bienvenue au podcast de Mac Québec, l'émission du 12 janvier 2010, la première émission de l'année. Mon nom est Sylvain Grandmaison, qui est trouvable assez facilement sur le web. À mes côtés.
Bonjour, je m'appelle Laurent Lassalle et sur Internet, on peut me retrouver à mesparolessanvol.com ou ma14.com.
Oui, et on en profite pour vous souhaiter une bonne année, mesdames et messieurs, puisque c'est encore la première semaine de travail. On a encore le droit, mais après ça, c'est fini. Hein?
Ah oui?
Ouais, vendredi, là, c'est...
Non. OK, c'est bon, j'en prends note.
On va commencer tout de suite dans le vif du sujet, mais on va vous dire aussi en passant que c'est enregistré toujours au Café Lézard, en direct du Café Lézard, 3119 rue Masson, et on est live sur Ustream chaque deux mardis, exactement à 13h, ben là, à 13h05.
Ouais, on s'excuse de notre léger retard.
Alors, commençons tout de suite. Rogers étant le tethering gratuit.
Oui, bon, ben c'est ça. On avait, quand que le iPhone OS 3.0 a vu le jour l'été passé, enfin Apple avait autorisé le tethering, donc l'utilisation du iPhone en tant que modem. Et Rogers et Fido, pardon, avaient dit que ça allait être autorisé jusqu'en 2010, après quoi il faudrait payer des frais supplémentaires mensuels. Mais avec la venue de Bell et de TELUS qui permettent maintenant l'utilisation du iPhone sur leur réseau, étant donné que c'est un réseau GSM maintenant, et aussi le fait que le tethering est gratuit auprès de la compétition, ben Rogers et Fido ont décidé de prolonger justement jusqu'en mai 2010. Moi, je croise mes doigts pour que ce soit toujours disponible.
Oui.
Tout le temps, mais sinon, ça va juste justifier encore une fois de jailbreaker un iPhone.
Oui, tout à fait. Il y a toujours moyen de réussir à faire ce qu'on veut faire quand même. Autre petite nouvelle, mais c'est très, très petit. En fait, il y a une compagnie qui a lancé son clavier fait pour le iPhone. Donc, c'est un vrai clavier physique et on n'a fait que déposer son iPhone dessus et puis on peut taper drôle, comme on veut. Compagnie qui s'appelle Ion Intrust et ils l'ont lancé dans le cadre du CES à Vegas la semaine passée, si je ne me trompe pas. Donc, on va mettre les liens dans les notes de l'émission. C'est assez intéressant.
OK. Sinon, c'est connecté comment? Moi, je regarde la photo, là, puis c'est parce qu'on dirait que c'est pas branché ici. C'est quoi? Il reconnaît par Bluetooth, peut-être?
Probablement par Bluetooth, mais en fait, ici, ce qu'on voit sur le dessus de l'iPhone, donc c'est peut-être en dessous.
Ah, ouais, OK, c'est comme
faudrait
ça.
Faudrait voir dans les détails sur le site de la compagnie. Moi, je l'ai trouvé sur un site de nouvelles, évidemment. Donc, on va vous mettre ça dans les notes de l'émission. Comment est-ce que Apple diffuse ses fuites? Je pense qu'on l'a tous vu.
Il y a un article qui est paru, puis toi, tu faisais le lien avec la tablette, et effectivement, toutes les nouvelles ont fait le lien. C'est-à-dire qu'il y a John Martellaro, c'est l'ex-senior marketing manager chez Apple, a confirmé justement que Apple pratiquait ce que tout le monde se doutait déjà, c'est-à-dire des fuites contrôlées. Donc, ça s'est arrivé justement à l'occasion du iPhone. Et n'importe quel produit que Apple sort, c'est qu'il y a un grand patron qui va voir quelqu'un qui connaît quelqu'un dans les médias, quelqu'un qui travaille chez Apple, évidemment. Il dit cette information-là, ça serait le fun si tu pouvais comme en parler à ton ami. Puis de dire que ce serait le fun si ça pouvait justement se dire. Mais évidemment, tout ça, ça se fait par téléphone ou en personne. Il n'y a aucun courriel comme ça.
Ça
aucun papier,
place,
aucune preuve.
Donc, en fait, Apple, en général, a des stratégies de marketing hautement contrôlées.
Ben oui.
Même simplement, la stratégie de placement des gens dans la salle lorsqu'ils lancent des produits... Il y a quelqu'un qui expliquait comment chez Apple ils gèrent ça pour que les journalistes soient toujours entourés de gens qui sont très hype, qui sont vraiment des fans de produits Apple et qui trippent au bout. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent les hardcore fans d'Apple en avant. Ils en mettent vraiment une série en avant. Ils en mettent une autre série en arrière, comme ça. En avant et en arrière, il y en a plein. Et dans le milieu, on mélange des fans avec des employés d'Apple et des journalistes. Comme ça, les fans d'Apple et les employés sont là. Puis si ça ne lève pas assez dans les réactions, mais les employés sont là pour applaudir plus fort,
ouais,
eux aussi, pour que les journalistes vraiment soient à l'intérieur du hype. C'est assez intéressant.
Ouais,
comme...
c'est intéressant. C'est un peu désolant en même temps, mais je veux dire, tout est contrôlé de nos jours. Big Brother est partout. Voir qu'Apple serait gentil. Oh, c'est juste parce qu'ils sont bons qu'on les aime.
En même temps, ça donne des idées. La prochaine fois que je ferai une conférence, je t'engagerai, Laurent, pour faire le meneur de claque.
Oui, c'est
pour,
ça. Hein, je vais être en arrière. Oui, il a raison.
Le multitrack, qui est une autre nouvelle application audio pour l'iPhone, c'est assez intéressant pour ceux vraiment qui trippent audio, mais surtout aussi ceux qui font de l'enregistrement, peut-être qui enregistrent des groupes. Il y a un truc qui fait de l'enregistrement audio 16 pistes. Donc oui, il y a vraiment 16 pistes. Et je suis allé faire un tour sur le site en question. Donc c'est assez complet. Donc, vous pouvez aller voir ça. Ça enregistre en stéréo, pas simplement en mono, mais ça enregistre vraiment la gauche et la droite. Donc, on peut, dès l'enregistrement, séparer à gauche-droite. Donc, il y a toutes sortes de trucs. Tout est là, comme dans, même plus que dans un Zoom H4.
OK, ouais.
C'est assez hallucinant. Donc, pour s'il y a des musiciens ou des fans d'enregistrement, aller faire un tour là-dessus. L'autre nouvelle, Chrome passe devant Safari comme troisième navigateur Internet.
Oui, ben c'est ça. On ne peut pas vraiment se surprendre de ça, étant donné que Google est quand même un service que tout le monde utilise, autant les PC que les Mac. Apple a réussi à avoir une bonne part de marché. Je prends l'exemple avec iTunes, grâce à un appareil physique comme l'iPod ou l'iPhone. Donc, c'est pourquoi le logiciel iTunes, qui est généralement vraiment prédit pour les Mac, ben, il est quand même bien répandu chez les PC. Par contre, pour ce qui est de Safari, ben, Apple n'a pas une offre substantielle ou n'est vraiment pas dans la même position. Donc, pour encourager les gens d'installer Safari, je suis convaincu aujourd'hui encore que la majorité du monde sur PC ignore que Safari est disponible pour PC fait par Apple, étant donné que tous les produits Apple ou presque, tous les produits Apple nécessairement sont pour Mac.
Ouais.
Donc, tandis que Google a le beau jeu, j'ai été surpris l'autre fois, je me suis pointé sur Google sur un PC, je pense que c'était le PC de mes parents. Puis, évidemment, en haut, on détectait justement que c'était Firefox qui était utilisé. Puis, ça disait, on utilisait un moyen plus rapide avec Google Chrome de naviguer sur Internet. La pub était là, dans la page d'accueil de Google. Fait que oui, ils ont le droit, tout à fait, mais c'est ça.
Google Nexus One versus le Apple iPhone 3GS.
On parle ici de spécifications techniques. On a comparé, dans le fond, le nouvel appareil, parce que tout le monde sait que Google a introduit, c'était quand? C'était la semaine passée ou en début de semaine?
La semaine passée,
je pense que c'était jeudi passé. Google a dévoilé le fameux Nexus One, qui était le Google Phone, mais en fait, qui n'est pas fabriqué par Google, qui est fabriqué par HTC, une compagnie... quand même très connu au niveau des téléphones cellulaires. Puis quand on compare justement avec le Motorola Droid et l'iPhone 3GS, on se rend compte que c'est du pareil au même. Oui, la compétition a une meilleure caméra, 5 mégapixels. Par contre, l'iPhone a beaucoup plus d'applications. On parle de 125 000 applications versus 16 000. On voit où est le gros joueur.
La quantité d'espace
disque. Oui, d'espace disque. Le Droid offre quand même du 16 GB, ce qui est considérable, mais par contre, le fameux Nexus One vient avec 4 GB. Heureusement, les deux appareils de la compétition permettent justement l'insertion d'une carte SD. Mais sinon, de base, c'est quand même assez limité. Puis, pour ce qui est du réseau, ben nous, on est limité avec AT&T aux États-Unis. Eux sont limités avec T-Mobile pour ce qui est du Nexus One. Motorola Droid, il est en CDMA, il n'est même pas en GSM. Donc, c'est pas mal tout, sauf AT&T et T-Mobile. Donc, c'est ça, le multitouch, on l'a partout sur l'iPhone, tandis que sur les autres appareils, il est supporté, mais il n'est pas intégré. Somme toute, Apple s'en sort quand même assez bien. On sait que généralement, pour ce qui est des ordinateurs, Apple a tendance à offrir l'équivalent à plus cher. Ben là, on est quand même pas si pire que ça.
Il y a une nouvelle qui n'a pas nécessairement directement rapport avec le Mac, mais que ça nous tentait justement de parler un petit peu. Est-ce que 2010 sera l'année de la télé 3D?
Qu'est-ce que la télé 3D?
La télé 3D, ben c'est où est-ce que la télé offre la possibilité de diffuser une image en 3D qu'on peut regarder avec des lunettes.
OK, OK.
De façon claire, parce que je ne sais pas si tu as déjà essayé les trucs 3D sur, les DVD, par exemple, qui ont 3D, qui sont en 3D, puis tu as des lunettes rouges et bleues, là.
J'ai essayé.
Ça fonctionne pas.
Sur ça marche. Ben, peut-être pas sur une télé, là, mais moi, je me rappelle de... C'était quoi? Rad Racer, là, le jeu sur Nintendo. Là, on pouvait le mettre en 3D, puis ça marchait.
Ça marchait pas pire.
Ben, ça marchait pas pire, mais c'est un jeu vidéo. Ouais. C'est comme... C'était
sauf
pas...
que là, c'est vraiment...
Là, tu perds toutes les couleurs. Là,
ouais, mais là, c'est vraiment optimisé, vraiment, avec les vraies couleurs. Un peu comme quand tu es au cinéma en 3D. C'est que ça change pas les couleurs, mais tu as vraiment l'effet, mais...
Est-ce qu'on va dire son nom ou on ne dira pas? Est-ce que tu es allé voir Avatar en 3D?
Non, je suis pas allé.
Ben moi non plus, puis ça m'intéresse pas. Moi, je suis comme le rabat-joie qui dit « Non, je veux rien savoir. »
Mais tout ça pour dire que c'est quoi, pourquoi faire ça à ce moment-ci de la télé 3D alors que on est en train de passer, tu sais, la plupart des gens passent au HD ou sont passés au HD. Moi, pour moi, c'est un gadget pour tenter de retarder la migration de l'écoute de télé sur son ordinateur parce que est-ce que ils viennent de finir d'implanter la télé HD dans la plupart des stations. Est-ce qu'ils vont se mettre à acheter des caméras pour filmer en 3D?
Je pense pas. Parce que ça nécessite deux lentilles.
Oui, c'est ça.
Vu que deux angles de vue à peu près pareils, mais qui donnent l'impression de profondeur, plus on s'approche de l'écran. Donc, je sais pas. Moi, j'y crois pas.
Ben non, c'est un gadget. Puis si on se fie à tout ce qui est, à ce qui est disponible en 3D, pour l'instant, je pense que ça n'a aucun succès à venir. rumeur, rapidement, iPhone chez Vidéotron.
Ouais, ben on se rappelle que Vidéotron, quand ils ont voulu justement demander leur permis de téléphonie cellulaire, ben un des arguments justement que Pierre-Carl Péladeau avait sorti, c'était le fait que, écoute, lui, il voulait un iPhone puis il ne voulait pas payer trop cher. Puis le seul réseau GSM qui était disponible à l'époque, c'était Rogers. En tout cas, il y a des rumeurs qui veulent que l'iPhone, étant donné qu'il est disponible partout, je vois pas pourquoi il serait pas chez Vidéotron. D'ailleurs, Vidéotron sont en GSM aussi. C'est ça. C'est une rumeur. On n'a pas plus d'informations que ça. Ça vient de notre ami Laurent Maisonnave, qui malheureusement est absent. On a oublié d'introduire justement M. Maisonnave en début d'émission.
Oui, on le salue en fait. Il est toujours en France. Il devait être de retour, mais je crois qu'il sera de retour jeudi.
Il va être de retour seulement en fin de semaine.
Donc, la prochaine émission, il sera là, on l'espère.
Oui.
Apple préparerait un nouveau type de magasin Apple Store. On n'a pas vraiment de détails sur quoi.
Ça va être à Palo Alto, c'est ça?
Oui, ben, c'est ça. Ça se ferait en ce moment à Palo Alto. On dit que le magasin serait 50% plus grand que le magasin actuel à Apple. On donne des détails un peu physiques, techniques, mais sur la teneur du magasin lui-même, pourquoi ils veulent lancer un nouveau magasin, on ne sait pas.
Mais je me souviens qu'il me semble au Carrefour Laval, ils ont fermé le magasin pendant un certain temps. J'y suis retourné, puis j'ai même pas remarqué la différence. j'ai peut-être pas porté attention, là, mais ils reconnaissent
quelque chose de plus majeur. Là,
non, mais pour les flagship stores, puis ils ont quand même un certain succès avec les magasins. Avant que ça s'estompe puis que ça meure, ben peut-être qu'une idée de relancer ça ou de rendre ça un peu plus interactif, ça pourrait peut-être être intéressant. Parce que le concept est quand même, c'est un peu dommage. On se présente au Apple Store puis il faut prendre un rendez-vous via le concierge. Puis là, souvent, ils ont le Genius Bar et loadé jusqu'au lendemain ou surlendemain. Puis là, il faut revenir. Peut-être qu'ils ont une solution par rapport à ça. En tout cas, je l'espère.
Autre rumeur, Morgane, on peut presque pas passer à côté. C'est à peu près... Ça occupe à peu près 50% de l'espace des rumeurs d'Apple.
Je suis déjà surpris qu'on n'ait pas parlé encore.
Oui, le Apple Tablet ou le Tablet Mac ou le iSlate, peu importe. Notre ami Laurent a monté tout un beau dossier
parce qu'on avait,
sur le sujet.
Il y a un article, c'était sur quoi? Sur Engadget, je pense.
Ouais.
Je veux juste valider. Non, c'était sur Gizmodo qui donnait vraiment donnait vraiment le ton et un résumé. Puis j'ai résumé le résumé parce que c'était quand même un gros document qui référait tout. Ouais. Première question, comment va-t-il s'appeler? iSlate est un nom qui est sorti la semaine passée ou il y a deux semaines.
Étant donné que, Noël, je pense.
Ouais, ben c'est ça, Apple avait acheté le nom de domaine iSlate, puis ils ne l'ont pas acheté de façon privée, ils l'ont acheté vraiment public. Donc, est-ce que c'était seulement une rumeur pour que le monde se jette sur ce nom-là quand ça n'a aucun lien? J'ai aucune idée.
C'est pour continuer à alimenter les rumeurs, évidemment.
Ben, c'est ça, mais c'est un fait que la plupart des produits d'Apple ont deux syllabes. Je parle des appareils comme l'iPod, iPhone, deux syllabes. iSlate aurait deux syllabes, iGuide aussi. Tablette Mac, c'est un peu... Ça dépend. S'ils veulent donner la Twist Mac, puis si on pense que c'est Snow Leopard qui va être dedans, tablette Mac aurait du sens. Mais s'il s'agit d'un gros iPod Touch, je ne verrais pas le nom Mac dedans. Ça,
non, c'est
je
ça.
Je
ne
verrais pas l'utilité.
Moi non plus. Disponible quand? On prédit, ben, plusieurs prédisent une livraison pour mars. On prévoit que l'appareil sera dévoilé en janvier.
Oui, ben c'est ça.
Dans quoi? Dans une semaine et demie, deux semaines?
Non, c'est dans deux semaines exactement. Pendant qu'on va animer le Mac Québec,
c'est vrai.
L'événement aura lieu. Donc, on va essayer de jeter un œil là-dessus. Puis dès que l'information va être dévoilée, on va avoir l'exclusivité nécessairement.
Ben oui, écoute, l'exclusivité québécoise des annonces à Apple, c'est nous qui l'avons. Oui,
c'est ça.
Combien ça coûtera?
Oui, ben c'est ça.
Il y a
ça.
Des rumeurs.
Là,
en même temps, moi, j'ai vu justement des articles qui disaient que les rumeurs qu'il y a sur les prix,
internet.
Sur les internets, sur le prix d'un tablette, en fait, c'est pour faire, c'est un peu pour Apple une façon de jauger le marché. C'est eux qui alimenteraient ça justement pour jauger le marché puis voir
les réactions,
mm-hmm. combien les gens sont prêts à payer. Parce que s'ils le mettent à 800$ puis que les gens seraient prêts à payer 1000$ pour l'avoir, ben
Ils vont le vendre 1000. Mais c'est ça, là, le Washington Journal, il prédit que ça va coûter 1000$ avec un accès illimité Wi-Fi d'une façon quelconque. Mais quoi qu'il en soit, l'introduction du iPhone, lui, est à 800$. Donc, on suppose que ça va être entre ce prix-là et le moins cher des MacBooks.
Ouais.
Parce que l'iPhone, quand il est introduit, même à 800$, tout le monde l'a acheté. Mm-hmm. Jusqu'à ce que le monde arrête d'en acheter, puis ils sont mis à baisser le prix. Donc voilà, mais on peut terminer en disant que Steve Jobs lui-même a dit « Nous ne pouvons produire un ordinateur pour moins de 500$ qui ne soit pas de la cochonnerie. »
Ouais.
Il a dit « piece of junk ». Moi, j'ai traduit ça « cochonnerie ».
Grandeur de l'écran, 7 pouces, 9.6,
10.6, c'est vraiment... Il y a même, je ne sais pas si c'est le Washington Journal, il y en a un qui dit « Non, il y a deux appareils ». Je pense que c'est DigiTimes. Il y en a un à 7 pouces, il y en a un à 10 pouces.
Ben, on a vu l'automne passé qu'il y avait plein de rumeurs parce qu'ils ont justement testé des prototypes. Mm-hmm. Ça aussi, c'est d'autres fuites qu'on a eues. Ils ont testé des prototypes dans une usine en Chine.
Mm-hmm.
En tout cas, moi, la rumeur que j'ai vue la plus et qui semble la plus fondée, ça serait autour de 10 pouces.
Ben,
plus
ça aurait de l'allure. Là. 7 pouces, ben, je veux dire, en fait, on dit ça.
On le sait pas. On spécule.
Ouais, on spécule, les spéculations.
Quelle sera son architecture?
Oui, ben c'est ça. On ne sait pas si ça va être 3G de standard ou s'il va y avoir un processeur Atom ou un processeur développé par Apple, étant donné qu'Apple a acheté la compagnie PA Semi il y a, je pense, quelques mois, peut-être même, je pense, c'était l'année passée. Fait que non, au niveau vraiment spécification technique, là, pour l'instant, les rumeurs n'ont jamais été aussi floues.
Oui. Qu'est-ce que sera l'utilité d'un Apple Slate ou d'un iSlate d'un tablette?
Ben c'est ça.
Tablette?
Est-ce que c'est fait pour travailler? Est-ce que c'est fait pour browser le web? Est-ce qu'on va lire des vidéos avec ça?
Ben c'est difficile de... Quand tu lances un produit comme ça, de définir qu'est-ce que les gens vont faire avec.
Ben généralement, oui. Tu le définis, mais des fois, ça vire puis ils finissent par faire d'autres choses. Non?
Ouais.
Regarde l'iPhone, à la limite, l'iPhone sans third-party apps, c'était un appareil que tu pouvais, oui, avoir quelques applications. Finalement, ils ont réussi à le hacker, à mettre des applications. Puis Apple a été intelligent, ils ont au moins suivi.
Au début, Apple misait pas tant que ça sur les applications.
Non.
Là. Vraiment, puis ça a été une belle surprise là, quand même.
Oui.
Apple travaillerait sur une version multi-touch d'iWork. Ça, c'est une autre rumeur qui se fait...
Oui, donc iWork serait probablement intégré. Puis,
ouais, c'est
donc
ça.
On peut supposer qu'on va travailler avec ça. Non, on ne fera pas juste lire ou browser.
Tout ça, ouais. Ouais. Donc, on peut ça pourrait être vraiment une plateforme de travail. On parle de webcam aussi.
Oui, ben, je pense que ça, c'est inévitable.
Oui. Oh, il faut surtout si c'est portable, c'est... c'est ça, c'est Wi-Fi, tout ça. On peut le transporter, l'amener dans les cafés, n'importe quoi. Ça prend ça. Puis ce qui est drôle, c'est qu'on scrute tous les détails autour de ça. On scrute même les plateaux qui tiennent la carte SIM comme on a dans un iPhone sur le dessus, notre carte SIM.
Mm-hmm.
Vraiment, ils sont allés voir le fabricant puis ils ont comparé une carte SIM qui a été un support de carte SIM qui a été commandé avec celui du iPhone qui est légèrement différent, mais okay. ça serait pour Apple aussi.
Okay.
Là, est-ce que c'est pour le iPhone 4e génération?
Oui, c'est ça, parce que est-ce lui que aussi, il s'en vient.
Oui, on ne le sait pas parce que, en tout cas, parce que des rumeurs aussi à ce niveau-là.
Ah, les rumeurs, on ne le saura jamais.
Et oui, ben justement, une des rumeurs, c'est, bon, l'iPhone 4e génération, peut-être pour mai. Et j'ai vu des croquis aussi qui suggèrent dans la structure qu'il y aurait une caméra à l'avant.
Ben, il est temps, non? Franchement, là, avec...
Faut régler ça.
S'ils mettent une caméra à l'avant, ils te pluguent iChat là, ils ramènent... Parce qu'iChat, là, on ne se le cachera pas, là, ça meurt, là.
Oui,
est-ce
oui.
que tu utilises encore iChat? Moi, je ne l'utilise pas. Là. Je suis
non,
tout le temps
la
sur
dernière fois, je l'ai utilisé, ça doit faire 2 ans. Là.
Fait que s'ils réussissent à ramener le nom, l'application iChat, il faut qu'ils fusionnent ça avec Skype. Il faut qu'ils fassent de quoi, là?
Ah,
moi,
oui,
je pense que Skype est rendu un incontournable,
ou bien
même s'il connaît certaines difficultés.
Ou bien que la connectivité sur
ce soit compatible.
Là-dessus, ce soit compatible, mm-hmm. tout simplement, tu sais. Comme il y en a d'autres qui sont compatibles aussi avec Skype. C'est ça, le SDK 4.0 de l'iPhone pourrait être dévoilé le 26 ou le 27 janvier, à peu près en même temps que
Ben moi, j'aurais
le
pas...
Le Software Development Kit,
j'aurais
pour
pas,
ceux qui ne savent pas c'est quoi le
c'est
SDK.
Ça. J'aurais pas de misère à imaginer Apple d'abord introduire le SDK 4.0 pour l'iPhone, puis que le One More Thing soit le Ice Slate ou le tablette Mac.
En même temps, le SDK, ça s'adresse vraiment, vraiment au hardcore programmeur.
Ouais, je le sais, mais souvent, le Macworld, parce que là, à ce temps-ci de l'année, généralement, Apple était au Macworld et présentait whatever ce qu'il voulait présenter. Puis des fois, c'était très geek et très hardcore programmeur. C'était
ah oui, dans les nouvelles, oui.
Donc là, ils font un événement eux-mêmes, tout seul, indépendamment, à Cupertino. On va voir ce que ça va donner.
On va vous passer au segment des nouvelles en vrac. Donc, on en a parlé légèrement au dernier épisode. iVideo Camera et Kick Video Camera. Tu veux nous
Mais
en
oui,
parler?
Des applications officielles qui fonctionnent avec l'iPod 2G et 3G. Je parle pas de 3GS ici. Donc, iVideo Camera, essentiellement, c'est l'application de vidéo de caméra qui vient avec le 3GS.
Mm-hmm.
Très semblable, les boutons, tout ça, c'est nécessairement c'est la même chose. Je l'ai testé justement tantôt dans la rue. Ça filme bien, le playback a l'air un peu saccadé, fait que j'ai pas vérifié par contre sur mon Mac si la qualité de la vidéo était meilleure puis plus facile à lire là-dessus. Par contre, on peut trimmer, on peut faire tout ce que l'iPhone 3GS fait. J'imagine que la qualité, si on la compare, nécessairement elle est moindre. Mais c'est quand même le fun d'avoir l'option justement d'enregistrer une vidéo. On pouvait déjà le faire avec un iPhone jailbreaké, donc il fallait hacker le iPhone pour être en mesure de le faire. Là, au moins, c'est rendu officiel. L'application iVideo Camera est seulement 99 sous, tandis que Quick, ça, c'est une application qui permet de streamer justement en direct sur Internet. On sait que Ustream a réussi à lancer son application pour faire pareil avec l'iPhone 3G et iPhone 2G. Je pense que c'était un peu avant Noël, donc Quick est arrivé genre le soir du 24 ou du 25 décembre, un vrai cadeau de Noël. Fait que c'est vraiment... On se demande pourquoi Apple autorise enfin ça. Moi, j'ai pas la réponse.
Et aussi pourquoi qu'ils l'ont pas autorisé pendant tout ce temps-là.
Ben ça, par contre, c'est facile, c'est Apple.
Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais.
faut pas essayer de comprendre, là. Faut juste se demander pourquoi elle l'a, pourquoi maintenant.
Ouais.
Je sais que la venue du Google Phone, mais en même temps, le 3GS permet ça. Puis il est disponible, il est accessible, il n'est pas si dispendieux que ça.
Mm-hmm.
En tout cas, c'est bizarre.
Des previews de chansons sur la version Furteur Web de iTunes. On l'avait annoncé. Au début, iTunes était un magasin qui était simplement disponible dans le logiciel iTunes.
Mm-hmm.
Avant Noël, à l'automne, bon, ils ont ouvert un peu une fenêtre sur le web où est-ce que tu pouvais aller voir tous les albums, tout ça. Donc, c'était simplement texte, mais dès qu'on cliquait, ça nous redirigeait sur le logiciel iTunes directement.
Ça facilitait le partage justement avec les gens qui n'ont pas nécessairement iTunes ouvert. Par exemple, si tu es sur un Google Phone ou un autre appareil, il y a quelqu'un qui t'envoie un lien, ben, tu peux cliquer au moins savoir de quoi il parle.
Exactement.
Tu peux pas l'écouter, mais tu peux savoir de quoi il parle.
Sauf que là, ben, ils ont poussé un peu plus loin, puis bon, c'est ce qu'on pensait qu'ils allaient faire, c'est que on pouvait pas, à ce moment-là, écouter les previews, le 30 secondes d'extrait de la chanson. On pouvait pas l'écouter sur le web. Fallait cliquer pour aller dans le logiciel. Donc maintenant, ils l'ont ajouté tout simplement. Donc, on a vraiment les mêmes fonctionnalités. Il ne reste plus simplement qu'à pouvoir acheter directement dans son furteur. Est-ce que ça va venir? Je ne sais pas, parce que étant donné que les chansons sont toutes en AAC, et de toute façon, il faut que tu le gères avec un logiciel qui reconnaît ce format-là.
Oui, mais c'est quand même un format open. AAC, c'est du MPEG-4, c'est super ouvert. N'importe quel logiciel peut utiliser ça. C'est sûr que sur Mac, le logiciel de prédilection pour ce format-là, c'est iTunes. Mais étant donné qu'il n'y a plus de DRM, c'est plus un problème. Il pourrait facilement permettre justement le téléchargement directement sur le browser, puis gère ça comme tu veux.
Ouais, mais en fait, je me pose la question parce que je ne suis pas un utilisateur de Windows beaucoup. Quels sont les autres logiciels de gestion de musique qui.
Sur Windows.
Qui le gèrent.
Comment il s'appelle? Le Windows Media Player.
Ouais.
Je pense qu'il existe encore. Puis c'est le Windows Media Player qu'on avait avant sur Mac. Non. C'est vraiment, là, tu as une interface, tu as une librairie, c'est un peu comme iTunes. Puis il y a des gens qui préfèrent ça. Winamp, ça existe encore?
Je sais pas. Okay. Ben, puis la question, c'est est-ce que ça lit les A? C'est
sûr que oui. Je pense que oui. Oh. Amener les formats, là.
Ouais, c'est ça. Firefox Mobile RC1.
Oui, oui. Le fameux furteur Firefox est maintenant en real. C'est pas version développeur, c'est genre la version proposée 1 là, pour les appareils téléphoniques mobiles. Donc, on parle du Google Phone, du Android et tout ça. Il est disponible également pour le Nokia N900. Il va être sur Windows Mobile bientôt. Et évidemment, il n'est pas sur iPhone parce qu'iPhone, Apple est quand même un grand joueur avec Safari. J'essaie de retrouver son WebKit, moi c'est ça. Apple préfère WebKit à Mozilla, donc ils préfèrent que leur furteur soit utilisé exclusivement sur leur appareil. Mais là, je veux dire, ils viennent d'autoriser la vidéo sur les anciens iPhone 2G, 3G. Est-ce qu'ils vont permettre à la compétition de fournir des browsers? Pour l'instant, il y a des restrictions là-dessus. Apple ne l'autorise pas, mais peut-être que ça pourrait changer. Mais j'y crois pas. Je sais pas. Mais pour l'instant, je suis satisfait, moi, avec Safari.
Oui.
Ça plante jamais. Je sais pas.
Dans le chat ici, on dit que la dernière version plante beaucoup sur Mac, je trouve. Et on nous dit aussi que RC veut dire Release Candidate.
Ouais, mais excusez mon ignorance. Ça me revenait pas à l'esprit. La dernière version plante, moi, elle plante jamais. C'est sûr Firefox a tendance à planter si, et seulement si, tu y mets des applications. Plus tu y mets de plugins, plus il devient lourd, il prend beaucoup de mémoire, puis oui, il a tendance à crasher. Mais moi, pour l'instant, j'utilise surtout Google Chrome, qui est bêta, puis lui, il a de la misère à planter, mais il plante quand même un petit peu plus souvent que Firefox.
Firefox, j'ai jamais de problème avec. 3 milliards d'applications iPhone téléchargées. Il me semble qu'on vient juste d'annoncer 2 milliards. C'est exponentiel.
Ouais, ça finit plus.
Oui, il n'y a plus d'infini.
Il n'y a plus d'infini. On est dans les nouvelles en vrac ici.
Oui, c'est ça. Greenpeace décerne à Apple le titre de fabricant d'électronique le plus vert.
Autant Greenpeace avait vargé sur Apple, là, Star, ils ont rendu fin.
Oui, mais en fait, on ne dit pas que, ils ont mis en place certains trucs, par exemple, par rapport au recyclage, tout ça. C'est sûr que aussi Apple aussi a fait des efforts. Les packagings sont plus petits, etc. etc.
Ah, c'est vrai.
Il y a toutes sortes d'affaires au niveau de la consommation de l'électricité. C'était très gourmand, les appareils avant. Ils sont un petit peu moins. La quantité d'énergie qu'ils utilisent. Donc, c'est un peu tout ça qui a fait en sorte. Mais on s'entend que produire des ordinateurs, c'est quand même assez polluant, merci.
Oui, j'imagine. Puis non seulement ça, c'est de sortir des nouveaux modèles, des ordinateurs qui sont pas facilement possibles de mettre à jour. Regarde, on ne se le cachera pas, là. C'est pas super green comme philosophie.
Non, mais quand même, c'est le moins pire des pires.
Selon eux.
Apple fait l'acquisition de Quattro.
Oui, c'est ça. Il y a une boîte de pub spécialiste en marketing mobile. Je pense qu'on avait parlé, du moins Laurent Maisonneuve avait amené le sujet il y a quelques émissions, comme quoi que le iPhone allait probablement être la plateforme tout désignée pour la pub justement mobile, la pub sur téléphone cellulaire. Là, Apple fait l'acquisition d'une firme, c'est Quattro. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? On va peut-être le savoir juste dans 2 ans et demi. Mais bon, c'est acheté, c'est fait.
Donc voilà.
On a des sujets, en fait, mais...
On a quelques sujets. C'est notre ami Laurent Maisonneuve qui devait justement être avec nous auparavant. Justement, entre-temps, ben, il a décidé de rester au pays un petit peu plus longtemps par affaire, je crois, et pour le plaisir. Donc, on va lui conserver ses sujets pour la prochaine épisode. Il y en aura quelques-unes dans le collimateur, donc ça y fera quelque chose ça, à
c'est,
dire.
C'est même pas des sujets qui parlent du tablette. Là. Pourquoi on en parlerait?
Ouais, c'est ça. Non, en fait, on pourrait vous le dire rapidement, mais bon, voilà.
On le fera pas.
Non, on va lui garder ça pour lui. Donc, le prochain rendez-vous, c'est quand? C'est le 26 janvier à 13h, évidemment, et l'événement Apple est prévu en même temps. Donc, on va surveiller ça de près.
Oui. Favorisez-nous quand même. Vous pouvez nous écouter sur Ustream, puis checker peut-être les nouvelles entre-temps. Puis peut-être, peut-être que vous allez réussir à avoir justement la nouvelle avant nous, puis nous le dire dans le chat. Comme ça, on va pouvoir informer les autres écouteurs. Les autres auditeurs
de l'émission. Justement, parlant de l'émission, est-ce que je peux vous demander quelque chose pour, pas pour l'année 2010, là, mais juste un petit coup de pouce de votre part. Vous savez que quand vous allez dans le Apple, le iTunes Store, si justement vous allez voter, vous allez mettre des étoiles, vous ajoutez des commentaires, ça aide justement à être mieux répertorié.
Être mieux, plus prise en considération. Puis
oui, c'est ça. Puis peut-être être même featuré sur la page principale des podcasts. Donc,
tous et toutes, allez directement sur iTunes, écrivez le commentaire « Laurent est beau », faites submit et voilà.
Et voilà, c'est réglé.
Oui,
ouais, c'est ça.
Enfin, je vais pouvoir croire que je suis beau.
Oui, c'est ça. Donc, le but, c'est de faire croire à Laurent qu'il est beau et
oui,
puis lui dire aussi que sa barbe est spectaculaire. Donc, ici Sylvain Grandmaison qui vous dit à très bientôt. Vous pouvez me retrouver, je ne sais pas si je l'ai dit tantôt, sur québecbalado.com, phono.ca. Mon usager Twitter est toujours S Grandmaison. À mes côtés, l'homme à la barbe.
Oui, Laurent Lassalle, je suis disponible sur Internet. Mais vous pouvez me retrouver sur Twitter avec Laurent, tout court.
Je suis disponible sur Internet, mais en quantité limitée seulement.
Oui, en quantité limitée, malheureusement.
Oui, donc on vous dit à très bientôt pour un autre Mac Québec.
Ciao.
Ciao.